Europe 1.
Europe 1 soir.
19h, 21h.
Pierre de Villeneuve.
On parlera de la Chine avec la visite, bien sûr, de Xi Jinping avec le géopoliticien Cyril Brett. Ça sera juste après votre journal. Bonsoir, Maël Hassani.
Bonsoir, Pierre. Bonsoir à tous.
Il est 20h sur Europe 1. Merci de suivre Europe 1 soir. Jusqu'à 21h. Au sommaire de votre journal, poussé vers la sortie par les Restos du Cœur en raison de ses opinions politiques.
Colombe, une bénévole sexagénaire sans emploi, avait laissé éclater sa colère devant une caméra de TF1 en marge d'un meeting du président du RN, Jordan Bardella. Son intervention lui a d'abord coûté sa place au sein de l'association qui décide finalement de la réintégrer. Une cérémonie en grande pompe aux Invalides avant un entretien fleuve à l'Élysée avec Emmanuel Macron. Xi Jinping débute officiellement sa visite d'État en France et le président chinois promet de ne plus vendre d'armes à la Russie. Dans ce journal également, le Hamas accepte une proposition de cesser le feu à Gaza présentée par l'Égypte et le Qatar. Et puis il a fait aimer la littérature à des millions de Français. Le journaliste Bernard Pivot est décédé à 89 ans.
La tendance météo, Marlène Duret.
Alors un ciel changeant demain avec des averses attendues principalement au sud de la Loire, des pluies également près des frontières de l'Est, même de la neige en haute montagne. Il faudra aller vers le pourtour méditerranéen pour trouver un temps plus clément.
Tout ce qu'il faut savoir sur la météo à la fin du journal de Maël Hassani. Son témoignage visionné par plus de 5 millions de personnes avait ému la France.
Colombe, une sexagénaire sans emploi, avait fait part de son ras-le-bol face aux nombreuses difficultés du quotidien. Elle était interrogée par un journaliste de TF1 en marge du meeting de Jordan Bardella à Perpignan le 1er mai dernier. Et c'est parce qu'elle est sympathisante RN que les Restos du Cœur, où elle était bénévole, l'ont poussée vers la sortie dans un premier temps, avant d'annoncer sa réintégration, Alexis de la Fléchère.
Oui, un communiqué des Restos du Cœur vient d'être publié sur les réseaux sociaux pour clarifier les choses. Colombe sera réintégrée si et seulement si elle adhère à la charte de l'association sur la neutralité politique, charte qu'elle n'aurait pas respectée le 1er mai dernier en marge du meeting du Rassemblement National à Perpignan en déclarant être bénévole au sein de l'association, accusation que conteste toujours Jérémy Calfon, l'avocat de Colombe.
Le principe de neutralité politique est indispensable pour une association comme les Restos du Cœur. Néanmoins, dans les déclarations de Colombe, je persiste et je signe, rien ne relie les Restos du Cœur au Rassemblement National. Le Resto du Cœur n'admet pas l'erreur qui a été la sienne, qui est de penser que Colombe a commis une faute.
Et selon le communiqué des Restos, on apprend aussi qu'aucune procédure d'expulsion n'a été engagée contre Colombe, qui s'est sentie, face à ce désaccord, poussée à démissionner d'elle-même. Et à l'heure où on se parle, on ne sait pas si Colombe acceptera de réintégrer dans ces conditions les Restos du Cœur.
Alexis de la Fléchère. Le Hamas dit avoir accepté une proposition de cesser le feu dans la bande de Gaza portée par l'Égypte et le Qatar. La balle est désormais dans le camp d'Israël, affirme le mouvement terroriste. Après cette annonce, des scènes de joie et des tirs en l'air ont été observés dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, où l'État hébreu s'apprête à lancer une offensive. Ariane Ménage, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Quelles sont les réactions côté israélien ?
Eh bien, pour le moment, pas de réaction officielle. Dans la presse, des responsables affirment que les autorités israéliennes vérifient d'abord quels sont les termes de cet accord. Selon eux, des changements de dernière minute auraient pu être apportés par les médiateurs. En attendant, donc, pas de commentaires. Mais ça pourrait bien être la percée la plus importante dans les négociations depuis des mois. Si effectivement Israël accepte ce soir la proposition en question, elle renverra prochainement une délégation au Caire, comme le Hamas d'ailleurs. Il faudra cette fois entrer dans les détails, négocier par exemple les noms des otages, les noms des prisonniers palestiniens qui pourraient être libérés. Ce soir, en tout cas, les États-Unis continuent à faire pression sur le gouvernement israélien. Joe Biden a eu Benjamin Netanyahou au téléphone dans la soirée. Une pression externe et interne. Ce soir, les familles des otages manifestent à nouveau devant le ministère de la Défense à Tel Aviv.
Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 en Israël, et les États-Unis indiquent il y a quelques minutes qu'ils examinent la réponse du Hamas à la proposition de trêve.
La situation internationale nécessite plus que jamais un dialogue euro-chinois.
Propos d'Emmanuel Macron, afin de justifier l'accueil en grande pompe de Xi Jinping pour une visite d'État de 2 jours en France. Certains voient d'un très mauvais œil les honneurs accordés au président chinois, particulièrement autoritaire. Après une cérémonie aux Invalides, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant plus de 2 heures à l'Élysée avant de s'adresser à la presse. Et le président de la République a salué les engagements pris par son homologue face à l'invasion russe de l'Ukraine.
Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. Nous devons maintenir un étroit dialogue sur cette question et sur la guerre en Ukraine, en particulier au vu des informations que nous pouvons avoir sur tel ou tel contournement par telle ou telle entreprise.
Emmanuel Macron, aux côtés de Xi Jinping en début de soirée. Le président chinois s'engage également à œuvrer en faveur d'une trêve olympique dans le conflit russo-ukrainien. Ce soir, les deux dirigeants participent à un dîner d'État à l'Élysée. Et demain, le président de la République emmènera son homologue chinois sur les terres de son enfance, les Hautes-Pyrénées, où vivait sa grand-mère. Le principal groupe de défense des droits des Juifs s'inquiétait hier du niveau sans précédent d'actes antisémites recensés en 2023. Et pour répondre à cette flambée, le gouvernement lance aujourd'hui les assises de lutte contre l'antisémitisme, à l'initiative de la ministre chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, qui sera votre invitée dans quelques minutes, Pierre. Et il faut dire que la situation est particulièrement préoccupante en France. Camille Moreau, le nombre d'actes antisémites a été multiplié par 4 l'année dernière.
Oui, depuis le 7 octobre et l'attaque d'Israël par le Hamas, d'après l'organisation américaine Jewish Committee, un Français sur 4 de confession juive a été victime d'au moins une agression physique ou verbale. Cette réalité alarmante presque devenue banale, 3 victimes l'ont raconté en vidéo lors des assises. La plus jeune n'avait que 8 ans, raconte Aurore Berger, ministre de la lutte contre les discriminations.
Une petite fille de CE2 qui expliquait la voix tremblante qu'en vérité, il y a une autre petite fille de sa classe qui lui a dit qu'elle ne voulait pas partager la même chambre qu'elle en classe verte parce qu'elle était juive.
Face à ce genre de situation, les Français de confession juive ont peur. Alors pour Mario Stasi, président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, il faut agir vite et fort.
J'ai proposé, moi, que l'on fasse, vu l'urgence de cette lutte contre l'antisémitisme, une grande cause nationale. Il y a urgence, s'il vous plaît. Des paroles aux actes.
Parmi les autres propositions, lutter contre les préjugés antisémites dès l'école primaire ou encore adapter la loi pour mieux encadrer les dérives antisémites sur les réseaux sociaux.
Camille Moreau du service Société d'Europe 1.
Et donc Aurore Berger sur ce sujet tout à l'heure à 20h30 sur Europe 1. Si la France reste un grand pays de littérature, c'est en partie grâce à cet homme.
Le journaliste Bernard Pivot, décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Il était un amoureux des mots et il a passé sa vie à en faire la promotion, d'abord dans sa mythique émission de télévision Apostrophe entre 1975 et 1990, puis un peu plus tard, il a intégré l'Académie Goncourt comme juré à partir de 2004, puis comme président 10 ans plus tard. Dans les librairies parisiennes, aujourd'hui, vendeurs et clients avaient une pensée émue pour la figure populaire qu'était Bernard Pivot. Le reportage d'Antoine Bienvaux.
Accoudé au comptoir de sa librairie, Laurent a presque les larmes aux yeux en apprenant la mort de celui qui a rythmé chaque vendredi soir de sa jeunesse.
Ça a marqué mon enfance personnellement, parce que moi je regardais l'émission Apostrophe avec mes parents. Ça permettait de découvrir certains auteurs qu'on ne connaît pas. En fait, un auteur, si on voyait pas l'émission Apostrophe, on ne savait pas à quoi il ressemblait, ce qu'il pouvait raconter. Donc ça permettait de se faire une idée du livre qu'il écrivait, quoi.
Pour se réconforter, il échange ses souvenirs de Bernard Pivot avec Yolande, elle aussi grande admiratrice du journaliste.
Il était vraiment très intéressant. Je présentais des gens vraiment un peu de toute confession, quoi. On aura du mal à le remplacer quand même. Un Bernard Pivot, non, il n'y en aura qu'un.
Un animateur irremplaçable, c'est aussi le sentiment de cette autre cliente qui se remémore avec émotion ses soirées passées devant l'émission Apostrophe.
On apprenait des choses, puis je sais pas, la personnalité était agréable, toujours à l'écoute et puis toujours gai. On sentait qu'il y avait une gaieté en lui.
Comme elle, tous les clients croisés dans la librairie saluent la mémoire d'un grand homme amoureux des mots et de la langue française.
Le reportage Europe 1 d'Antoine Bienvaux, et je ne résiste pas à l'envie de vous relire ce tweet posté par Bernard Pivot en 2016. L'habitude des radios de m'appeler à la mort d'un écrivain est si grande que le jour où je mourrai, elles m'appelleront.
Ouais, bon, on l'a pas fait, mais c'était expéditif à chaque fois. Hein, ça. Bon, il est mort, attendez, je retrouve ma fiche. Voilà. Bon, ça vous allait ? Allez, au revoir.
Tous les journalistes de France ont souvenir comme ça avec
mythique,
Bernard Pivot.
Mythique.
Et puis l'un des tableaux français les plus célèbres, tagué à la peinture rouge cet après-midi. L'origine du monde de Gustave Courbet, actuellement exposé au centre centre Pompidou de Metz a été ciblée par des activistes dont l'artiste franco-luxembourgeoise Déborah de Robertis. L'expression MeToo, symbole de la lutte contre les violences sexuelles, a notamment été inscrite. Le tableau était protégé par une vitre. Deux femmes sont en garde à vue.
Merci mon cher Maël Hassani.